Avez-vous de la joie d'être là ce matin? Oui. Ouais, et ben moi en tout cas j'en ai beaucoup. Je suis tellement incroyablement surprise par ce que Dieu met dans mon cœur. Je disais, mais est-ce que c'est possible d'avoir un cœur qui est presque prêt à exploser de joie? Alors j'espère que vous allez ressortir dans le même état, que c'est contagieux et que c'est une bonne maladie avec laquelle vous pouvez repartir sans crainte. Donc, je m'appelle Claire Grobetti, ça vous avez vu sur l'invitation. Je viens de Genève et je suis née, comme j'ai dit hier, dans la marmite de l'Évangile, parce que mes parents étaient déjà des chrétiens très engagés, leurs parents aussi. Donc, c'est vrai, j'ai un capital de bénédiction. Quand Dieu le dit, je le crois, je le vois et je suis tellement reconnaissante de ce cadeau que j'espère que vous, jeunes parents, allez faire à vos enfants. Voilà, l'héritage d'avoir une famille aimante et une famille qui aime Jésus. Il y avait peu de distractions à l'époque. Et c'est vrai que ben, la Bible, la parole de Dieu, a vraiment été le centre de notre vie d'enfant. Mes parents étaient actifs dans l'église, donc je suivais les activités. J'ai donné plusieurs fois ma vie à Jésus, mais une manière particulière, c'est à 16 ans, alors que j'étais vraiment en grande révolte contre mes parents qui m'avaient obligée à participer à un camp. Et je suis arrivée là-bas, vraiment, s'étaient sortis. Hein, les rétros, je ne sais pas comment on dit ça dans l'aviation, on avait mis les freins complets pour ne pas aller. Mais le Seigneur avait quelque chose pour moi ce jour-là. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des moments clés dans nos vies qui scellent cette appartenance. Et même si parfois on dévie ou bien on s'éloigne un peu, le Seigneur se rappelle de nos oui. Et si aujourd'hui ben, vous avez un peu l'impression d'être un peu de côté, le Seigneur se souvient quand vous lui avez dit oui. Et il va l'honorer et il va redonner cette flamme. Parce que qu'est-ce qui est beau? C'est de vivre enflammé comme un jeune chrétien. Parce qu'on est tout bouillant, on a envie de changer les choses. C'est comme les jeunes, la jeunesse qui est aujourd'hui, qui est présente, c'est beau. Parce que souvent les jeunes, ils ont envie un peu de mettre les pieds dans la fourmilière, n'est-ce pas? Mais ça fait du bien. Parce que nous, parfois, ben, on est un peu dans un roulement et puis on se dit, oh non, on ne va pas changer d'une chose qui fonctionne. Et les jeunes, ils disent, mais oui, on peut peut-être faire autrement. Et un chrétien bouillant, il aime bien mettre les coups de pied dans la fourmilière. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que des fois, avec les seaux d'eau qu'on reçoit, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, j'en ai reçu des seaux d'eau une fois que j'étais jeune convertie. Puis après, alors, on s'éteint un petit peu, puis on se met dans le moule. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on va sortir du moule. Et puis, on ne va pas se laisser enfermer. Et j'espère que vous pouvez vraiment repartir aujourd'hui. Notre prière, la prière du comité, des femmes qui prient pour vous aujourd'hui, il y a des intercesseurs un peu partout, c'est que vous puissiez vraiment marcher dans cette liberté. Sauf qu'après mon camp, je suis revenue à mes activités. Puis en tant que jeune femme, je ne sais pas si ça correspond à certaines passions des jeunes femmes ici, peut-être que j'étais vraiment une rebelle, hein. Mais j'avais plus envie des choses que le monde pouvait offrir. L'argent, la vie facile, les sorties. Alors, Dieu est subtilement passé du centre de ma vie à une position de bordure, Oui, il a perdu le centre pour devenir une passion qui fait partie des autres passions, mais qui ne prend plus le centre de mon intérêt. Alors, ce sont les autres passions qui ont pris la place. Et ce désir d'avoir, de posséder, m'a rendu tiède. Je n'ai pas quitté l'église, je n'ai pas quitté les... Même, j'étais même active, il y a tout un temps où j'étais même monitrice de l'école du dimanche. C'est possible d'être tiède et d'être actif dans l'église. Parce que je me disais, heureusement qu'il ne voit pas trop ce qu'il y a dedans mon cœur. Mais le Seigneur est bon, parce qu'il a permis des temps où si on m'avait jeté hors de l'église, peut-être que là, ça aurait été un temps très grave pour moi. Mais voilà, le Seigneur sait toutes choses. Et j'ai envie de vous dire déjà maintenant, il cisèle un habit personnel pour chacune. Vous n'avez pas à rentrer dans la robe de celui d'à côté, de celle d'à côté, ni dans le pantalon, ni dans la chemise. Dieu a quelque chose de personnel pour chacune. Alors il m'a laissé être conduite par mes passions, mes désirs, et je n'ai pas compris quand j'étais dans cette période-là qui a duré, vous allez être horrifiée, mais 30 ans, 30 ans de cette insatisfaction permanente, je cherchais, mais je ne savais pas quoi, dans le fond. Je n'avais pas compris que d'avoir déplacé le centre de ma vie en Jésus, ça avait déséquilibré toute ma vie. Je vous montrerai après quel exemple pratique. Heureusement, Dieu est bon. Et il y a 10 ans, il m'a ramené et il a redonné le feu dans mon cœur. Il a redonné ce désir de lire la parole. Il a redonné vraiment ce centre et il est venu pleinement le centre de ma vie. Et si je suis aujourd'hui ici, c'est juste parce que c'est la grâce. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les mystères de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Paul, il a été arrêté sur sa route. Hein. Mais on peut penser que c'est les prières. Et moi, je crois aussi que la prière de ma famille a été le résultat que Dieu a touché mon cœur. Et aujourd'hui, je peux partager, c'est vrai, de ces 10 ans de parcours, ce chemin qui nous mène petit à petit à la liberté. Et une fois, je posais la question à une dame et je lui dis, c'est quoi pour toi, dans le fond, la vraie liberté? Eh bien, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Dans le fond, notre, c'est un parcours, mais de devenir de plus en plus libre, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Et voilà le titre, Libre comme Jésus. Est-ce que vous avez un peu imaginé que c'était utopique, un peu un idéal? Qui est-ce qui a été un peu surprise de ce titre? Merci. Il y en a quand même une. Parce que moi, j'ai quand même trouvé que c'était... J'ai rigolé intérieurement. Je me suis dit, c'est assez provocateur, dans le fond. Libre comme Jésus. Ça peut dire être parfait comme Jésus. Mais vous allez voir que c'est un chemin auquel on est appelé à marcher. C'est vrai qu'on ne sera jamais libre d'une manière exactement parfaite comme Jésus, puisque lui n'avait pas de péché en lui. Mais nous sommes appelés à marcher dans cette liberté. C'est un processus. Donc, ce que je vais dire ce matin, ça ne sort pas de mon cerveau, c'est juste un chemin que j'ai puisé jour après jour dans la parole. Mes parents lisaient la Bible tous les soirs. Nous lisaient la Bible tous les soirs. Ils ouvraient la Bible. Puis il y avait des jours où, franchement, c'est vrai, en tant qu'enfant, on n'avait pas très envie. Mais je crois que ça a marqué mes entrailles. Et je peux dire que j'aime la parole de Dieu. Et il n'y a qu'une chose à laquelle j'espère, franchement, c'est que vous ressortiez avec un nouvel amour pour la parole de Dieu. Elle a réponse à tout. Elle a la consolation pour tout. Elle a la restauration pour nous. Elle y a tout dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce processus de découverte ou de redécouverte? Parce que des fois, on a besoin de se dire, « Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais entendu, mais c'est... » Et puis, dit de cette manière ou partagé de cette manière, je comprends mieux. Alors, je prie que ce matin, on puisse comprendre encore une fois ou d'une manière fraîche ce que Dieu veut nous dire. Donc, maintenant, ce n'est pas une super vidéo, mais je n'en ai pas trouvé une meilleure. C'était très difficile. Mais je trouve que l'image qu'on va voir derrière c'est un aveugle, devant c'est un guide, et que vous le sachiez, on ne l'entend pas, mais l'aveugle a une oreillette et le guide donne ses ordres. Voilà, la musique n'est pas bonne, donc ce n'est pas très grave. Mais j'aimerais que vous puissiez sentir la liberté avec laquelle cet aveugle skie. Juste pour sentir, Franchement, imaginez, moi, des fois, j'essayais de fermer les yeux chez moi. Mais je me dis, mais c'est paniquant. Et cet homme-là, les yeux fermés, doit descendre une piste en étant juste guidé par des ordres. Je crois que c'est des chiffres. 9, 8, 7, je ne sais plus, je ne sais pas. Qui dit tourne à droite, tourne à gauche. Mais c'est juste incroyable. Pour moi, c'est une belle image de ce que devrait être notre marche avec le Seigneur. Une confiance aveugle. Parce que le guide ne va pas l'emmener dans un trou. Le guide ne va pas lui permettre de rentrer dans un arbre ou bien de heurter un caillou. Le guide, il est là pour aider cet aveugle, pour lui faire vivre quelque chose de bon et de beau. Cette confiance. Le Seigneur voudrait être ce guide pour nous. Je trouve que ça représente bien notre marche. Ça ne veut pas dire d'être stupide, parce qu'il lui faut beaucoup de courage à cet aveugle de se dire « je fais confiance à mon guide sur un terrain que je ne connais pas, dans une situation que je ne maîtrise pas ». Il a dû faire abstraction de ses réalités. Il a dû juste faire confiance. Pour moi, c'est ça, la liberté, de faire confiance à son guide. La liberté selon le monde. Est-ce que tu le passes ou je passe? Je peux passer. Alors, on y va. Ça marche. Ça, c'est l'idéal utopique du monde. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes. Il faudra déjà me dire où est-ce que c'est possible. Pas de soumission, pas de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Alors je vous avoue que je pense que celui qui a écrit ça, il doit rêver, parce que c'est impossible que vous croyiez que vous êtes libre, parce que vous faites un peu ce que vous pensez, sachez que vous êtes tout le temps guidé et manipulé par quelque chose. Soit par vos propres pensées, de vos propres désirs, soit même de tous les messages que nous recevons constamment, qui nous influencent et qui gouvernent nos choix, indépendamment de notre volonté. Donc ça, c'est le monde. La liberté est prévue par Dieu. Alors, on ne va pas s'étaler parce que vous êtes, à mon avis, toutes des connaisseuses de la parole de Dieu, mais on le voit, le plan initial, le plan prévu par Dieu, le plan chéri dans le cœur de Dieu, c'était le jardin d'Éden. Bien sûr, ce couple qui se promenait nu, mais sans complexe, sans honte, sans jalousie, sans médisance, sans critique, et même sans effort, hein, tout était là, à disposition. Puis moi, j'aime bien dire, peut-être que Ève était vraiment ronde. Et alors, elle n'avait pas de complexe, elle était heureuse. Et puis cette relation simple et directe avec le Créateur. Mais remarquez déjà que dans le jardin d'Éden, il y avait cette relation de fils et filles au Père. Il n'y avait pas personne, ce n'était pas « je suis mon maître de moi-même ». Il y avait déjà cette relation, cette dépendance. Mais elle était bonne, elle était nourrissante et il y avait cette relation naturelle. Peut-être qu'il parlait simplement comme ça. « Ah ben, c'est beau aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'adressait à Dieu. » Mais c'est juste l'image de ce que Dieu voulait. C'est vrai, le plan parfait de Dieu. Des hommes et des femmes libres. Puis on le sait, Satan est arrivé, et là il est important juste de s'arrêter quelques minutes sur la manière dont fonctionne Satan. On le sait, mais il est important de se le rappeler pour garder ça vraiment vif à nos pensées. Satan utilise toujours une part de vrai, et on rajoute une part de mensonge. C'est vrai qu'il dit, par exemple, ben oui, t'es pas très belle. Peut-être que je suis pas, hein, comment ça pourrait être, comment ça, celle qui est très belle, c'est, enfin, il y en a plein, c'est stars très belles. Peut-être qu'on n'a pas le corps parfait d'une de ces stars de mode. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Qu'est-ce qui est beau en nous? C'est l'intérieur. Et si on écoute le mensonge que les jeunes, par exemple ma fille, elle continue de nourrir ce mensonge qu'elle est trop grosse. Et je vous avoue, vous devriez la voir, elle n'est pas du tout grosse. Je crois qu'elle fait... elle a fait 1m65 pour 60 kilos. Donc vous voyez, c'est faux ce qu'elle pense. Mais elle le dit, elle le redit, et elle nourrit ce qui a été dit d'une manière méchante à l'époque sur elle. L'ennemi utilise des choses, parce qu'elle était un tout petit peu, un petit peu enveloppée, mais l'ennemi utilise ça pour en faire quelque chose qui devient vrai. Et peut-être vous avez déjà expérimenté ça. Des choses qui sont partiellement vraies, qu'on continue de nourrir, deviennent ce qu'on est. Et finalement, on ne réalise même plus que c'est un mensonge. Mais c'est vrai, voilà, j'ai un peu trop de poids. Mais c'est l'ennemi qui veut nous pousser à avoir une mauvaise estime de soi, une honte, une culpabilité. Et quand il est venu, donc avec cette chute-là, il a emmené toutes ses pensées et ses sentiments et ses chaînes qu'on va voir tout à l'heure. Alors, voilà ce qui vient voler notre liberté, basée sur cette part de vrai, des fois, et ajouter des mensonges de l'ennemi. La honte peut-être de ce qui s'est passé dans notre vie, la culpabilité. Des fois, l'ennemi vient dire, mais oui, mais t'as vraiment péché là, et regarde, t'es pas digne d'aller dans la présence de Dieu. La culpabilité, ça n'existe pas dans le monde de Dieu. Si ce n'est pour nous amener à la repentance, bien sûr. La jalousie, ça c'était quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, la jalousie. La mauvaise estime de soi, le rejet, parce que des personnes ont vécu le rejet. Le rejet dans sa famille, le rejet parce qu'on ne voulait pas de ce bébé, le rejet parce qu'ils sont différents, toutes sortes de raisons. Nos désirs qui nous rendent esclaves, ces désirs de posséder, d'avoir ce qu'on n'a pas. Et les doutes, les inquiétudes. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes autour de nous, dans les cœurs des gens. Et je me dis, mais le Seigneur nous a libérés de ça. Mais ça vient, ça nous harcèle, n'est-ce pas? La comparaison aussi. Comme je disais hier, des fois, je dois aussi dire, non, Seigneur, je ne veux pas cultiver ça. Oui, je suis différente de telle et telle, mais tu m'as fait comme je suis. L'ennemi utilise, oui, c'est vrai, on est différent l'une de l'autre, on n'a pas le même appel, on n'a pas la même mission. Et alors? Comme je vous ai dit, Dieu a ajusté un vêtement pour chacune. On n'a pas à avoir envie de celui de l'autre. Alors, il a fallu quand même, ben on le sait, que quelqu'un vienne briser tous ces boulets qu'on traîne et qu'il puisse nous rendre libres de tout ça. Et la liste n'est pas exhaustive. Enfin, elle est seulement une proposition. Il y en a bien d'autres choses. Donc, on le sait parce qu'on aime Dieu. On est là, on le connaît. Il a fallu qu'il y ait le plan de libération. Et ce plan de libération... Il s'est accompli à la croix par ce sacrifice qu'on connaît, qu'il est bon des fois de s'arrêter, de méditer sur ce sacrifice. Oui, Dieu s'est donné justement lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Il y a vraiment un arrachement à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de son Père. Il est venu nous arracher, nous rendre libres de tout ce qui nous tient captifs. Et Jésus a montré le sommet de sa liberté quand il a donné de lui-même sa vie. Il n'a pas été obligé. Donc cette liberté complète a été démontrée par cet acte volontaire de Christ. Il a choisi lui-même de donner sa vie. C'est la preuve qu'on a le choix. On a le choix de faire des choses bonnes ou moins bonnes. Il a dit dans Jean 10, 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » Je trouve que c'est extraordinaire parce qu'à travers ce sacrifice, nous avons été libérés de la manière futile de vivre que nous ont transmise nos ancêtres, la racine du péché. Il a fallu que Christ soit tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. Pour obtenir cette liberté, il a fallu qu'il paye le prix. La liberté ne signifie pas toujours que tout est facile. Une définition que j'aime bien, la voilà, la slide, c'est celle d'un poète allemand. Voilà. N'est pas libre celui qui veut faire ce qu'il veut, au contraire de ce que pense le monde, finalement. Mais est libre celui qui arrive à vouloir faire ce qu'il doit faire. Et c'est important comme différence. Ça veut dire que si je suis confrontée à une situation où mon premier réflexe serait, par exemple, d'exprimer de la colère ou de la vengeance ou d'avoir de l'amertume, je peux dire stop, pause. Qu'est-ce que Jésus ferait ou répondrait? Quelle serait la pensée de Jésus dans cette situation? Il aurait de la compassion, il aurait de la patience, il aurait de l'amour. Ok. Alors, je vais choisir librement de faire ce que je dois faire. C'est ça la vraie liberté. Ça nous amène des fois à ne pas s'auto-apitoyer. Parce que je vous donne un exemple précis. C'est beaucoup plus pratique, les exemples concrets. Parfois, j'ai de quoi me plaindre de choses que je n'ai pas de mon mari. Pas des choses financières, mais des choses auxquelles j'espère et j'attends. Et puis, arrive la pensée, oui, tu vois, cet autre homme ou ce de tes amis, lui, il est comme ci, comme ça. Toi, tu n'as pas ça. À ce moment-là, j'ai le choix. J'ai le choix de dire, c'est vrai, je vais nourrir cette partie vraie que l'ennemi vient mettre dans mon cœur en évidence pour en faire quelque chose qui va être mauvais, une espèce de poison qui va ronger à l'intérieur de moi. C'est vrai, tu n'as pas ça. Et puis, c'est vrai que dans le fond, il ne fait pas ça. Et puis tu rêves de ça depuis combien d'années? Non, non, non. J'ai le choix de descendre dans cette spirale négative et d'avoir des pensées qui changent. Parce que rappelez-vous, quand Ève a tenu tête d'abord à Satan, elle a dit « Non, non, c'est pas vrai. » Il a juste dit qu'on ne pouvait pas manger de l'arbre du milieu du jardin. Quand Satan est venu redire « Oui, mais tu vois, c'est parce que Dieu, ça veut dire que vous allez être comme Dieu et vous allez pouvoir décider par vous-même. » Et puis, regardez, relisez la réponse de Ève. Elle vit que l'arbre était bon et que ses fruits avaient l'air délicieux. Son regard avait changé. Et si on laisse juste prendre un peu racine le mensonge de l'ennemi, notre regard va changer. Et si je laisse cette pensée sur mon mari, eh ben mon regard va changer sur lui. Et qu'est-ce qui va se produire? De l'amertume. Et puis, une espèce de côté d'agacement. Puis vous savez très bien comment on peut être, nous les femmes, que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec notre collègue, que ce soit avec notre sœur, notre sœur dans l'église. Tout d'un coup, on a laissé de l'amertume face à la sœur un tel dans l'église. on va dire, oui, moi je crois que, on a un petit air un peu détaché, mais la racine, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est l'envie, la jalousie, la racine de nos paroles. C'est l'ennemi qui est venu l'intoxiquer. Puis je ne sais pas vous, mais moi après je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas vraiment fière de moi. Alors on a le choix. On a le choix de dire, quand une pensée arrive, que ce soit pour un collègue, pour une sœur, pour un frère, pour une amie, on est aussi blessé par les amis. C'est vrai. Il y a des choses qu'on attend de nos amis, puis ils ne peuvent pas nous le donner. Quelle est l'attitude que je vais prendre? La liberté de faire le bien ou de me laisser entraîner dans cette spirale poison de poison. Alors, comme Jésus est notre modèle, on va voir rapidement dans quoi, dans sa vie, il nous montre qu'il a marché dans cette liberté. Il a été libre face à la tentation. Il dit qu'il a, le verset dans la parole dit « Il a été tenté en tout ». Oui, il est Dieu, il est Jésus, mais il dit quand même qu'il a été tenté. Mais il a tenu bon face à la tentation, libre de dire non à Satan qui lui faisait miroiter le monde. Non. Face à sa famille, j'ai envie de dire, dans les mauvais liens, ce n'est pas qu'il a rejeté sa famille, bien sûr que non. Mais libre de dire, même ma famille, c'est plus que ma famille biologique. C'est tous ceux qui sont autour de moi sont ma famille. Libre d'être pas sous le joug de la famille, mais simplement libre d'être au-delà. Libre face à la pression extérieure. Je parlais du cri au secours de Marthe et Marie quand Lazare se meurt. Au secours, viens vite Jésus. Ton ami, ton très cher ami qui se meurt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas. Il ne court pas. Et ça nous concerne, nous les femmes. Parce que nos tripes sont vite complètement en ébullition quand on nous appelle au secours. On doit avoir un peu de sang de Saint-Bernard dans nos cœurs, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord un peu? On est un peu des sauveurs nés. C'est vrai, c'est dans nos fibres et c'est beau. C'est beau. Mais si ce n'est pas le moment, alors on va ou s'épuiser ou faire des choses qu'on n'aurait pas eu besoin de faire. Ou prendre des fardeaux qu'on n'aurait pas eu besoin de porter. Manfred Engeli est un psychologue chrétien bien connu qui a écrit des livres, dont Makarios et puis Les Offres de Dieu, qui est un homme qui m'inspire beaucoup, parce qu'il a dit régulièrement, je ne veux rien faire sans que Dieu dise oui ou non. Rien. Je vous avoue que c'est même dans les choses pratiques qu'avec sa femme, tous les matins, ils ont une petite liste des choses qu'ils veulent demander au Seigneur. Et puis, ils prient aussi ensemble, mais chacun doit recevoir la réponse, oui ou non. Puis il dit, quand on n'est pas en accord, ben on remet le dossier sous la pile et on y reviendra. Et pour les personnes qu'il appelait, parce que maintenant il ne reçoit plus, en relation d'aide, eh bien, il allait toujours demander au Seigneur. Toujours. Est-ce que tu veux que je reçoive cette personne? Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Oui ou non? Mais chaque fois, c'était certainement quelque part au fond de lui difficile de se dire, mais cette personne, je sais qu'elle a besoin d'aide. Peut-être que on peut dire au Seigneur, mais peut-être que je peux aider. Oui. Mais si ce n'est pas exactement l'œuvre que Dieu a préparée, on va s'épuiser. Et il a dit, encore récemment, parce qu'on était en séminaire avec lui, « Je ne veux pas m'épuiser. Je ne veux vraiment que faire les choses que Dieu me demande de faire. » face à la pression extérieure, Jésus nous prouve dans sa vie qu'il n'a pas fait ce qu'il spontanément devait faire, il a fait seulement ce que Dieu lui demandait. Face aux accusations, on le sait, il a été libre de se taire, de ne pas se justifier. Libre face au code en vigueur, il a partagé du temps avec des femmes, il est allé manger avec des pêcheurs. Cette liberté, on a le droit. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Manger avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas interdit. Il y a des fois des choses qui nous enferment, même dans le monde chrétien. Mais cette marche de dépendance avec le Père, ça a permis qu'il aille sans souci côtoyer des prostituées, manger chez les collecteurs d'impôts, être assis à table avec des pêcheurs. Ça n'a pas fait de lui prostitué, ça n'existait peut-être pas à l'époque, mais ça n'a pas fait de lui un homme comme le public. Il est resté qui il était. Il n'avait pas peur. On n'a pas peur quand on est libre. Libre face aux autorités religieuses qui, quand ils l'empêchaient de vivre pleinement le ministère comme Dieu l'avait confié, il était libre d'aller contre et de, par exemple, de guérir le jour du sabbat. Il a été libre de donner sa vie. Cette liberté, Jésus qui est notre modèle. Les secrets de sa liberté. Je trouve aussi que c'est assez important de se les rappeler. C'est un petit moment de théorie, après on va rentrer dans le pratique. Son identité. En passant du temps, parce que ça fait des mois que je rumine ce sujet, que je le porte dans mon cœur, et un jour j'ai été vraiment frappée. Jésus, toi, le Fils de Dieu, t'as eu besoin, ou en tout cas Dieu a permis que cet épisode soit inscrit dans la parole de Dieu, d'entendre clairement la phrase qu'on connaît tous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans la tentation, il a redit cette phrase devant les trois disciples et il a dit, écoutez-le. Jésus, fils de Dieu, c'est vrai qu'il y a des choses parfois dans la parole de Dieu, on les lit, on les relit, on les a déjà vues, on les connaît, mais c'est ça une parole révélée. Quand on lit la Bible, c'est important de demander à Dieu qu'il nous révèle, qu'il nous la rende vivante, cette parole. Et tout d'un coup, c'est vrai que c'est devenu, waouh, mais une évidence. Seigneur Jésus, tu as eu besoin d'entendre la voix de ton papa qui te disait, tu es mon fils bien-aimé. Et on va voir pour nous après quelle importance ça a aussi. Et le secret de cette liberté, c'est cette confiance aveugle, on va dire, comme le skieur, dans son père. Il obéit parce qu'il a confiance, on va mettre les deux choses après, obéissance et soumission vont de pair avec la confiance. Quand on voit ce skieur qui dévale la piste avec une telle aisance, eh bien on se dit qu'il a une confiance absolue dans l'homme qui lui donne les ordres. Il sait que ce guide va l'amener au but entier. Et je trouve que l'image va encore plus loin. Ce skieur ne voit même pas la porte d'arrivée ou l'arrivée tout en bas. Il ne la voit pas. Il ne sait pas où il doit aller. Il n'imagine même pas à quoi ça ressemble l'endroit de l'arrivée. Le but, mais il fait confiance. Et parfois, c'est vrai qu'on est dans des tunnels. On ne sait même pas où on va. On n'arrive même plus à voir la lumière. Le tunnel est tellement sombre, tellement long, qu'on ne voit pas. Mais si on fait confiance à notre papa, il sait qu'on est au fond du trou, mais il est toujours là. On peut avoir cette confiance comme l'aveugle. Il est là. Et obéir. Et se soumettre. C'est pas des mots très modernes, n'est-ce pas? Soumission et obéissance. Moi, j'étais là, j'étais vraiment une insoumise. La seule chose que j'essayais de faire, c'est tout ce qu'on m'interdisait de faire. Donc, mes parents, les pauvres, ils ont un peu sué avec moi. Et j'essayais de vraiment briser les lois. Quand on me disait de pas faire quelque chose, j'essayais par tous les moyens de le faire. C'était cette rébellion. Et vous qui avez des petits-enfants, vous, on le voit déjà dans le cœur des petits-enfants. J'ai des petits-enfants, mais c'est impressionnant. Non, je ne veux pas me soumettre. Il y a déjà ça dans la racine de nos cœurs. Et les mamans, aujourd'hui, je veux vous dire, ne baissez pas les bras. Il faut continuer de dire non quand vous voyez que dans le fond, c'est une insoumission et c'est une rébellion. Vous allez rendre service à vos enfants. Parce que plus tard, ils vont avoir plus de facilité d'obéir à Dieu. Et puis toutes les femmes qui entourent les familles, aidez ces jeunes mamans. Des fois, c'est difficile. Et puis aussi, bien sûr, on le voit dans la vie de Jésus, son humilité. Son humilité. Il n'avait même pas ni beauté, ni éclat. Rien. Humble. Pas de lieu où dormir. Pas d'endroit qui lui appartenait. Rien. Jésus était humble. Des fois, on a besoin de se le redire parce qu'on a tout dans nos pays. Alors, comment saisir pratiquement maintenant cette liberté? Comment s'emparer de cette liberté? Eh bien, on va revenir à ce point de l'identité. Mesdames, mesdemoiselles, il est vraiment vital que vous alliez prendre du temps avec Dieu et vous lui demandiez « Qui je suis, moi, Françoise, Liliane, Marianne, Isabelle, peu importe. Qui je suis, moi, pour toi ?» Si Jésus a eu besoin de l'entendre de son Père, nous, nous en avons encore plus besoin. Et cette question, un jour, j'ai eu une heure dans un séminaire pour aller la poser à Dieu. Deux questions. Qui je suis, moi, Claire, pour toi? Et comment m'aimes-tu, moi, Claire? Vous pouvez prendre ces deux questions avec et prendre du temps un jour, le plus rapidement possible, pour aller le poser à Dieu et recevoir sa réponse. Ça va changer réellement le cours de la manière dont vous allez marcher. Imaginez une pauvre jeune femme. Il s'avère que c'est la fille d'un riche magnat du pétrole, mais elle ne le sait pas. Elle marche comme une pauvre jeune fille. Elle marche comme quelqu'un qui ne peut pas s'offrir le moindre des luxes ou le moindre des petits extras. Et au moment où on lui dit, mais on va dire Bill Gates, c'est facile, tout le monde le connaît. Tu es la fille de Bill Gates? Mais regarde, regarde tout ce qui t'appartient. Parce que ton père est riche, voilà tellement de choses qui te sont offertes. On a besoin de prendre conscience de notre identité et de réaliser qu'on est les filles bien-aimées du Père et qu'il a tellement à nous donner. Vous savez, des fois, je me dis, mais il doit être triste, Dieu doit être triste de se dire, on est ses filles bien-aimées et on se prive de tant de ses bienfaits. On se prive de tant de cadeaux. Je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité. Mais encore dans Hébreux, je relisais une terre qui reçoit des pluies fréquentes et qui produit des fruits, Dieu la bénit. Moi, je crois que Dieu a beaucoup plus de bonnes choses qu'on l'imagine. Si vous lisez la parole, c'est plein de « je veux les bénir, je soupire de leur donner des bonnes choses ». Mais quel père, quelle mère aurait envie de dire « oh non, aujourd'hui je ne te donne pas ce cadeau parce que dans le fond, non, je ne t'aime pas assez ». On a envie de bénir ceux qu'on aime, que ce soit nos enfants, que ce soit nos proches, que ce soit un père, une mère, que ce soit une amie. On a envie de bénir les autres. Profondément, c'est dans notre ADN. Alors imaginez si nous, limités comme on est, on a envie de donner. Mais à combien plus ? Forte raison, Dieu veut nous donner des bonnes choses. Ne nous limitons pas. Allons demander vraiment ce sceau de Dieu sur notre identité. Et puis, il est important de connaître le guide. C'est vrai, vous n'allez pas partir en excursion, par exemple, de monter l'Everest, sans connaître l'équipe avec laquelle vous allez partir. Dans tous les domaines, c'est la même chose. On ne fait pas confiance comme ça, aveuglément, à quelqu'un à qui on confie sa vie ou à qui on confie un proche. On va, on se renseigne. On apprend à connaître la personne, connaître son guide, connaître Jésus. Et on va le voir comment. Et lui donner la place centrale de notre vie. Alors là, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les choses pratiques. Et j'ai ramené une petite roue de vélo pour vous expliquer réellement et vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le centre et qu'est-ce que c'est que la place centrale de Jésus. Vous avez vu cette roue, il y a beaucoup de rayons, mais il y a un seul moyeu. Il n'y a qu'un seul moyeu, et si ce moyeu est déplacé, vous savez très bien que la roue, elle ne tourne pas rond. Si Jésus n'a pas cette place-là, dans votre vie, eh bien, les choses ne vont pas tourner d'une manière fluide. Et il y a un texte qui est très parlant. Je vais vous le lire pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire que de mettre vraiment Jésus au centre. C'est le livre de la loi de la foi, qui est un livre épuisé malheureusement, donc j'ai dû photocopier le livre d'un ami qui ne voulait évidemment pas s'en séparer. C'est de Norman Crobb. C'est un livre vraiment solide, c'est la loi de la foi. Mais j'ai trouvé beau quand il a parlé des affections abusives. Et ça nous concerne tous, moi y compris, je vous dirai pourquoi. L'homme est ainsi fait qu'il peut avoir une multitude d'intérêts différents dont chacun a quelque emprise sur son cœur. Mais au centre, il y a toujours un intérêt majeur, une passion maîtresse. Son cœur, comme une roue, a plusieurs rayons, mais un seul moyeu. Le cœur de l'homme est toujours centré sur quelque chose. Ce qu'un homme possède, le possède. Et c'est là son idole et son maître. Il peut y avoir encore une affection abusive pour un objet innocent, une chose utile, profitable même, élevée tant qu'elle reste à la périphérie, mais qui devient une idole destructrice lorsqu'elle occupe le centre. Cela peut être, et c'est souvent, une personne, un être aimé, et l'on entend la voix de Jésus qui nous met en garde par ses paroles terribles. Celui qui ne hait pas ne peut être mon disciple. Et la question incisive que Christ nous pose, m'aimes-tu plus que ? Quand on on se pose cette question, m'aimes-tu plus que tes amis, ta famille, tes activités, tes hobbies, tes passions? C'est vrai qu'il y a quand même toujours une passion maîtresse. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis qu'il y a une passion vraiment qui s'impose dans notre vie? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous parle? Oui? Non? Il y a quand même quelque chose qui occupe d'une manière plus importante le centre de notre vie, n'est-ce pas? Voilà. Et la question, c'est, est-ce que c'est Jésus? Alors maintenant, on va passer aux pratiques. Encore un peu plus. Pardon, on n'a pas fini. Oui, lui soumettre sa volonté et le laisser grandir en moi. Pratiquement, ça veut dire quoi? Voilà, maintenant on a vu la partie théorique. Maintenant, ça veut dire quoi? De connaître son guide, comment rentrer dans cette marche de la liberté. Alors, je crois qu'un verset qui représente bien cette marche, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle est où la liberté? Elle est où la vérité? Dans sa parole. Elle n'est pas chez moi, elle n'est pas chez les autres. Elle n'est pas dans le pasteur. Elle est dans la parole. Et pour illustrer ça pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire demeurer? J'ai pris deux coupes, mais c'est surtout pour vous montrer ce que je vais en faire. Voilà. Demeurer dans la parole. Ça veut dire juste saupoudrer quelques gouttes d'eau sur ma vie de temps en temps, peut-être à l'église, une petite prière de temps en temps. Oh, quand même aujourd'hui je vais écouter une prédication. Ma mousse, est-ce qu'elle va être utilisable? Non, vous êtes d'accord, ça ne suffira pas. Il va falloir que je la plonge. Plonger dans la parole, et je veux bien préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ça ne veut pas dire que vous devez passer vos journées à lire la Bible, mais ça veut dire que vous devez soupirer à vous laisser nourrir et vous immerger. Parce que la pression du monde est telle qu'eux, ils ne se gênent pas de nous imbiber. Eux, ils ne se gênent pas de nous matraquer de messages opposés à la parole de Dieu. Et pour tenir, et vous les jeunes, pour tenir contre cette pression de faire des choses comme le monde, d'être comme le monde, d'accepter des choses qui sont intolérables, d'avoir la juste attitude, il est important d'aller plonger dans la parole. C'est vrai qu'il y a des saisons. Et vu ma couleur de cheveux, vous pouvez bien imaginer que je ne suis pas dans la saison du pouponing parce que j'ai des enfants, mais j'ai des petits-enfants, mais pas des enfants. C'est vrai que je suis privilégiée par rapport à certaines de pouvoir me plonger dans la parole plus longtemps. Mais c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Dieu ne vous demande pas d'être sur cette estrade alors que vous avez peut-être 35 ans, 2 ou 3 enfants ou 4 ou plus, ou que vous êtes une femme active parce que vous devez vous nourrir et vous avez un travail prenant et que vous ne pouvez pas passer 2 heures à aller lire la Bible, méditer. Ce n'est pas la quantité, c'est l'état. C'est la manière, c'est est-ce que vous soupirez à recevoir de l'eau vive. Je vous le dis avec, vraiment avec affection. J'ai posé la question dans un groupe de prière de femmes que j'anime depuis quelque temps. Je leur ai demandé, mais comment vous vivez vos temps avec Dieu? Et ça, ça me brûlerait de savoir la vérité de chez vous. Parce qu'on entend de tout. Ben, je lis la pensée du jour. À midi, dans mon bureau, je m'arrête juste, puis je vais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, lire des pensées sur Top Chrétien, ou comme ça. Une autre, je chante beaucoup. Elle est où la parole de Dieu? Parce que, je vous avoue, et je vais vous dire, c'est difficile d'ouvrir la parole de Dieu. Je suis honnête avec vous. C'est très tentant d'ouvrir un livre. Je ne sais pas si vous avez ce même défi, mais c'est quand même un défi de dire, non, maintenant je vais prendre du temps pour lire la Bible. Et si on est très, très honnête, eh bien, il y a quand même des moments qu'on pourrait passer à lire la Bible. J'ai fait des choix. Par exemple, je ne lis pratiquement... J'ai plus d'abonnement de magazines futiles. Non pas que c'est inutile, c'est pas que c'est pas bon, mais j'ai envie de dire ça va me voler du temps. Voilà. Et comme le temps est rare aujourd'hui, je crois que c'est la denrée la plus rare. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est lui offrir du temps. Je me dis, mais Seigneur, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et une personne qui a témoigné il y a 2 semaines dans un séminaire, elle a dit, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'après 20 minutes de lire le téléjournal sur mon portable, il me réveille et il me dit stop. Vous savez très bien comment on peut perdre du temps. Alors des fois, on se cache derrière des excuses en disant « je n'ai pas le temps ». Mais si on faisait le crible de notre agenda du jour, peut-être quand même qu'on dirait « est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu des activités inutiles là ?» Privilégiez votre temps dans la parole de Dieu. Et quand vous y allez, demandez que Dieu vous parle. Parce que c'est là qu'il va vous parler. C'est là que vous allez être immergé. Et plus vous allez être immergé, plus vous allez entendre ce qui est juste. Et puis j'ai trouvé que cette image était aussi très belle. C'est le diapason. Vous connaissez peut-être plus tellement, parce que les plus jeunes les utilisent même plus, cet outil-là des ancêtres. Mais là, on l'entend, mais vous êtes d'accord qu'il suffit d'un peu de bruit pour qu'on ne l'entende plus. Il faut vraiment être attentive. Et ce diapason, eh ben, c'est ça. Le diapason, il est là. Et c'est lui qui va nous donner le bon ton. Le là. Et c'est lui qui va ajuster nos cordes. Parce que j'ai la profonde conviction qu'au fond de nous, Dieu a déposé le son parfait. On sait au fond de nous ce qui est bon. Mais la vie, le modelage de la société aujourd'hui nous a fait un petit peu perdre le là. Alors, en allant plonger dans la parole de Dieu, on va se dire, ah ouais, qu'est-ce que Dieu dit? Être patient, ou obéissant, esclave, il dit, mais en fait, employé, soyez des employés modèles. C'est pas marqué si votre patron est agréable. Ça, c'est les sous-titres qu'on aime bien mettre ou ajouter quand on se dit non. Dans le fond, la Bible, elle est un peu extrême. Aimez vos ennemis, Jésus a dit. Je vous avoue que moi, j'en suis pas là. Il y a encore du travail là. Le Seigneur, il y a encore du travail dans mon cœur pour que j'aime mes ennemis. On le dit vite, mais aimez ses ennemis. Aimez ceux qui vous poignardent. Ben, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je ne suis pas encore arrivée là. Encore quelques années de maturation, de bonification. Cette marche de liberté pour arriver un jour à dire « Ok, j'aime cette personne qui m'en veut ou qui ne m'aime pas. » Mais ça vient. Parce que chaque fois, je me dis « Ah ouais, soyez compatissants, lents à la colère, riches en bonté. Qu'autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Ouais. Donc ça veut dire quoi? Mes paroles, elles ne doivent pas être empreintes de médisance, de critique. Le diapason vient nous remettre nos cordes, ajuster nos cordes. Parce qu'il est important qu'on fasse ce qui est bon, ce qui est juste. Et il y a un verset qui est très très fort aussi dans Romains 12. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Il le dit, c'est vieux, de 2000 ans. Hein. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Chaque fois que je plonge dans la parole, que j'écoute le « là », mes pensées sont renouvelées, ajustées, corrigées pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le blesser. Et je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi. Quand on aime, que ce soit un conjoint, que ce soit une amie, quand on l'aime, on n'a pas envie de lui faire du mal. Et quand on aime Jésus, ben on n'a pas envie de lui faire du mal, de l'attrister. Et parfois, c'est juste par nos paroles qu'on attriste le Saint-Esprit qui est l'œuvre de Jésus en nous, n'est-ce pas? C'est lui qui vient dire « Ouh, ouh, attention, terrain dangereux !» Alors, plus on plonge dans la parole, plus, j'aurais pu le prendre aussi, une image pratique, plus on a un filtre qui devient de plus en plus fin. Et comme je disais hier, d'abord on a une grosse passoire à légumes. Quand on se convertit, on enlève les grosses choses, n'est-ce pas? On enlève peut-être le vol, peut-être la tromperie, enfin des gros péchés, on les nettoie. C'est le gros filtre. Allez, on donne sa vie à Jésus. Mais la marche n'est pas terminée. Il faut avancer et il faut continuer à avoir un filtre qui devient de plus en plus fin. Un filtre à particules et peut-être même plus pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Dieu utilise ce mot, ce qui est parfait. Et dans le monde, on n'arrête pas de nous matraquer avec des messages qui sont contraires et qui attristent le Seigneur. Il y a aussi une manière de nourrir cette belle immersion et que Dieu nous encourage à avoir, c'est de s'entretenir les uns les autres. Il y a une grande puissance dans le groupe. Je ne crois pas, et personne ne peut venir dire le contraire, Dieu a voulu qu'on se retrouve entre frères et sœurs ou entre sœurs. Et ce genre de rencontre, ce n'est pas juste pour passer un petit moment agréable, manger les bonnes choses, mais c'est pour s'entretenir sur les vraies choses, s'encourager les uns les autres. Et dans Hébreux 3, je crois, c'est 3:13, qui dit « Encouragez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que le péché qui vous cerne si facilement ne vous séduise pas. » S'encourager les unes les autres. Ça veut dire que des fois, il faudra bien redire à votre ami qui est en train de maugréer, mais le Seigneur te demande d'avoir de la compassion. Il t'encourage à pardonner. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on est dans l'état de colère. Hein? On a envie de dire « tais-toi avec tes théories ». Mais on a besoin de se le faire rappeler. Parce que c'est comme à l'école, on a besoin de savoir quelles sont les règles de mathématiques, d'allemand. Le professeur, il ne va pas dire Oh, tant pis, t'as fait des fautes. Non, la règle est la règle. Et la parole, c'est la parole. Elle n'a pas changé depuis 2000 ans. On ne peut pas dire qu'il faut couper des bouts. Il y a des gens, ça dérange des petits bouts. Mais non. Et à tout, vous trouverez la réponse dans la parole. Encouragez-vous les uns les autres. Et encore ce matin, je lisais dans Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement dans l'amour et dans la pratique du bien. Hébreux 10, 14. Veillons avec affection les uns sur les autres. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, une dernière image pratique dans cette marche, dans cette immersion, dans ce que ça produit, dans ce que ça... Oui, dans cette manière spontanée qu'on va de marcher, elle est annoncée par Paul. Paul, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. Être un imitateur. Alors, j'ai trouvé que c'était assez rigolo de prendre lui. Un imitateur. Alors lui, il se vante, enfin, c'est pas lui qui se vante, j'ai apparemment lu que c'était un très grand sosie de Elvis Presley. Eh bien, si dans le monde, on peut imaginer que des gens passent leur énergie, leur temps libre, leur argent, leur tout, leur pensée pour ressembler à quelqu'un, on est encouragé à faire la même chose avec Jésus. Et je suis certaine que cet homme-là, même sans les costumes, il marche comme Elvis, ou il parle comme Elvis. Notre marche doit devenir tellement naturelle, cette marche dans la liberté, cette marche en tant qu'enfant de Dieu à faire le bien, à être cette source de lumière pour les autres. Parce que le but de marcher dans cette liberté et de saisir cette liberté, elle est pour nous d'abord, oui, ne pas se laisser écraser par tout ce qu'on a déjà vu, mais elle est aussi pour que les autres aient envie de notre Jésus. Et ça parle bien plus nos attitudes que ce qu'on dit. Est-ce que juste spontanément, je parle en bien de ceux qui m'entourent? Je ne suis pas une personne qui critique. Moi, j'étais la championne de la critique. J'aurais pu avoir un prix, je pense. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenue sensible au fait que le Seigneur met vraiment une garde à ma bouche. Protège-moi de ne pas rentrer dans quelque chose qui, juste sous les bonnes intentions, vous savez, on peut dire « Oh, la pauvre !» Mais ça veut tout dire. Ça veut quand même dire qu'on a un peu de prétention aussi déjà par rapport à elle. Et un jour, j'ai dû me reprendre, j'ai dû demander pardon à Dieu d'avoir juste dit à une amie, une femme pasteur qui allait voir une personne que je connaissais, « Oui, oh, c'est bien que tu ailles la voir parce que franchement, comme elle fonctionne dans son couple. » Je suis rentrée dans ma chambre, il y a mon diapason qui a sonné fort, hein. J'ai dû demander pardon à Dieu et j'ai demandé pardon à mon ami. Parce que juste ça, c'est que j'avais sali l'image de l'autre. On salit l'image de l'autre. Et on l'empoisonne l'autre, on s'empoisonne nous et on déplaît au Seigneur. Donc soyez mes imitateurs. C'est ce que dit Dieu. Et le verset que j'aimerais que vous gardiez, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Être imitateur de Christ, c'est aussi le laisser grandir, lui laisser cette place, s'imbiber de lui, méditer. Et toutes celles qui courent le matin, prenez au moins le temps d'aller dans la parole. Peu, c'est mieux que rien. Il y a des saisons, voilà. Mais imbibez-vous d'une parole qui vous porte dans votre journée. Méditez-la. Répétez-la, gardez-la. Parce que si c'est ça votre désir, vous allez voir que Dieu va l'honorer. On va juste prier. Et je vous propose que, devant Dieu, vous vous posiez juste cette question et vous vous positionnez ce matin. Oui, je désire cette liberté. Je te demande pardon d'avoir mis un peu de côté. Je désire vraiment que tu sois le centre de ma vie. Et je te demande la capacité et la volonté. Comme David disait, crée en moi un cœur pur et bien disposé. Si simplement vous dites, j'ai besoin de toi, Jésus, il va faire le reste. Il va prendre, il va vous donner cette envie et vous allez la cultiver avec lui. Prenez juste un temps maintenant entre vous et votre Père. Seigneur, tu entends le cri de nos cœurs ce matin qui te disent viens, viens prendre cette place centrale. Je te prie, c'est vrai que tu donnes à chacune cette confiance que tu es le Père parfait. Qu'en toi, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de fournir des efforts. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous pousse à changer d'attitude. C'est ta bonté, c'est ta fidélité, c'est ton amour qu'on ne peut même pas mesurer, qui nous tend les bras, qui nous ouvre, qui dit « Viens, viens ma fille, je sais ce que tu vis, je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des batailles dans ton cœur, je sais que tu désires et que tu entends encore les mensonges de l'ennemi. Mais viens, je vais agir, je continue de travailler dans ta vie. Lâche tes doutes, lâche tes inquiétudes, lâche tes fardeaux. Mon joug est facile, léger. Je vais te guider, je vais te donner le meilleur. Je vais ouvrir un chemin même là où tu ne l'imaginais pas. Tu es ma fille bien-aimée. Chacune est précieuse. Chacune est unique. Chacune a un chemin unique. Merci Seigneur pour cet amour si grand, si haut, si large, si profond, si élevé qu'on ne peut même pas en saisir la moindre parcelle. Seigneur, que cet amour puisse vraiment couler dans nos cœurs. Aide-nous à entendre ton diapason, à entendre ta parole, à avoir faim de ta parole, faim de ta présence, et de marcher dans cette liberté de fille du roi des rois. Amen.